T'sais, il faut arrêter là, carrément de penser là, que c'est uniquement les gens des statistiques avancées qui décident de tout. T'sais.
C'est pas uniquement ça, Marc. Mais ils sont pesants dans la décision. Ils pèsent lourd dans les décisions
ben,
écoute, finales.
Regarde, on ne s'entendra pas là-dessus de toute façon, Alain. C'est sûr qu'on ne s'entendra pas là-dessus. Ouais.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Les camps sont en marche. Marc, on va prendre du temps pour parler de la situation des Blue Jays et particulièrement là, ce qui est arrivé avec Vlad Guerrero qui avait soumis une date limite aux Blue Jays afin d'en venir à une entente. Moi, je ne crois pas vraiment, mais bon, ça a fait jaser beaucoup. Et moi, ça a polarisé beaucoup les partisans des Blue Jays, Marc. La situation particulière de Vlad, on va aller à la haute direction. Est-ce que donner 10 ans, on ne parle même pas de 12, de 13, de 14, là, comme d'autres joueurs ont eu, mais 10 ans à Vlad Guerrero, est-ce que c'est trop? On s'est prononcé, Marc, dans des capsules qui ont été publiées. Ça a déjà fait réagir. Là, on va pouvoir élaborer un peu là-dessus. Et j'en ai déjà parlé, Marc, c'est long contrat, ça vieillit presque toujours très mal. Puis dans le cas d'un joueur comme Vlad, moi, j'aime pas ça. Après 30 ans, c'est un gars qui devra faire attention toute sa carrière. Il n'a pas été constant, il n'a pas eu la même constance, même qu'un Raphaël Devers, si tu veux un barème de comparaison. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on a utilisé chez les Blue Jays de Toronto, alors que Vlad, tu comprends que lui est allé dans le plus haut. Et quelque chose dans le milieu, j'imagine qu'on ne s'est pas entendu, puis sur le nombre d'années aussi. Moi, je ne peux pas blâmer les Blue Jays de Toronto, même si ça peut être frustrant quand tu es partisan des Blue Jays.
Ben, écoute, il y a plusieurs choses que tu soulignes dans ton commentaire, Alain, et c'est sûr que on a l'impression que si on veut garder un joueur de la trempe de Guerrero à l'âge qu'il a, on est presque obligé d'aller sur le fameux 10 ans dont tu fais mention, là. Sinon, tu vas le perdre parce qu'il y a quelqu'un qui va lui offrir. C'est un petit peu ça le problème avec l'industrie actuellement, c'est que il y a quelqu'un qui va lui offrir. Maintenant, je sais qu'on n'était pas proches, Alain. On semble-t-il qu'on s'était rapprochés, là, les deux clans, mais on n'était pas proches. Je pense que le chiffre de Vlad est très, très, très élevé. Et effectivement, la question se pose, est-ce que tu donnes tout ce montant-là, sachant fort bien que ça peut être difficile, évidemment, après 30 ans. Par contre, je regardais Miguel Cabrera. T'sais, ça a mal vieilli, mais ça a mal son contrat, mais ça a mal vieilli parce qu'il y avait effectivement 36, 37, 38. Mais à 31, 32, 33, c'est encore pas pire. Tu comprends? On est encore en train de produire quelque chose de le fun. Donc, tu sais, je me dis, un 10 ans, si le montant est raisonnable, ben raisonnable là, dans le jargon du baseball, là, tu sais, moi, je pense que c'est... Parce que Vlad, Alain, c'est plus qu'un joueur de premier but, là, tu sais, ça... développé par l'organisation, signé à l'âge de 16 ans, les Blue Jays représentent le pays au complet, Vlad, c'est Vlad, tu sais, tout le monde, tout a été bâti autour de Vlad. Donc, c'est pas juste un joueur de premier but qui est bon, qui est très bon de temps en temps, puis effectivement, un peu un manque d'inconstance là, dans son rendement. Mais c'est pour ça que je pense qu'il fallait quand même aller un petit peu au-delà. Mais je pense que l'écart est trop grand présentement entre les deux. Puis moi, je me dis, Alain, si on le signe, on l'a pas signé là, on le signera pas là. Là, il va vraiment tester le marché. Et là, ben, il va falloir juste regarder les différents scénarios possibles. C'est-à-dire, si les Blue Jays commencent, je sais pas moi, 10 et 20. Ouais. Ou si les Blue Jays commencent 20 et 10. Idéalement, là, ça serait de se positionner dans que ça va très mal ou très bien. Parce que si les Jays jouent 500, là tu fais quoi? T'attends. Parce qu'on sait que jouer 500, rendu à la pause du match des étoiles, t'as encore une chance de faire les séries. Fait que, il va falloir se positionner rapidement dans ce cas-ci, Alain, parce que je peux pas m'imaginer que les Jays vont perdre Guerrero sur le marché des joueurs autonomes. en ayant seulement en retour un choix compensatoire. Là. Donc, il y aurait des décisions sérieuses à prendre très tôt, selon moi, en saison, indépendamment du début de saison des Jays de Toronto.
Oui, effectivement, ça va déterminer probablement la suite des choses s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas d'entente, parce que comme j'ai mentionné, à un moment donné, les Blue Jays arrivent, puis on s'approche de la peut-être qu'on va écouter.
Moi, j'ai pas confiance, Alain, qu'ils vont se rapprocher. Ouais. L'écart était... Écoute, le chiffre qu'on a entendu, Alain, là, de la part de Vlad, là, on est dans le haut 500. Là.
C'est ça.
Fait que là, c'est-tu sur 10, 12, 13 ans, ça on sait pas trop, mais tu sais, on est au-delà du 40 millions par année. Fait que, donc, c'est ça. C'est un risque. Donc, tout ça pour dire, je suis d'accord avec toi, l'organisation, c'est tu sais, à un moment donné, il y a un chiffre que tu peux pas dépasser, je suis bien d'accord. Ouais. Mais Vlad représente beaucoup plus. Alors, tu sais, c'est qui va avoir raison tantôt, tu sais, parce que, faut-tu le répéter rapidement, là, mais 24e ou 25e, ça dépend des publications, là, mais au niveau du réseau de filiales, donc on n'est pas garni tant que ça en termes de joueurs d'avenir. Ouais. On a un personnel de partant qui est vieillissant. Tu sais, il faut pas tomber dans le piège, Alain, où j'y crois plus des reconstructions en 2025 dans le sport professionnel. Tu peux pas prendre 5 ans avec un propriétaire qui a autant d'argent puis que tu sais qu'on attire de faire une reconstruction. Donc, il va falloir poser des gestes quand même assez rapides pour se maintenir à niveau, là.
Ouais, moi, je suis pas inquiet là-dessus, Marc. On a essayé, bon, on s'était lancé dans le vide, c'est vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Moi, cette organisation-là sera pas en reconstruction. Non. Moi, j'en suis convaincu. On a les moyens de le faire. Il y a eu des grosses transactions en dehors du baseball qui impliquent Rogers, qui font en sorte que les équipes sous la férule de Rogers là, ne seront plus en reconstruction de quelque façon que ce soit. Le réseau de filiales, ça peut changer vite, Marc. Regarde les Red Sox de Boston, ça n'a pas été long. Ça a pris 2 ans, puis cette année, ça se pourrait qu'on envoie une
coupe. Ouais, absolument d'accord avec ce que tu dis. Par contre, qui va prendre les rênes de cette équipe-là pour reconstruire justement le réseau de filiales ou pas tomber dans une reconstruction? Donc, est-ce qu'on fait confiance encore au duo Shapiro Atkins? Qui, bon, ça fait 9 ans, là. Tu sais, à un moment donné, bon. Alors, c'est là la question, là. Est-ce que leur feuille de route est assez forte pour dire on fait confiance à eux puis on part avec eux? C'est là que c'est pour ça que le fameux début de saison, selon moi, est important. T'sais, si on s'écroule tôt en saison, ben, il risque peut-être d'avoir des changements au deuxième étage avant de se dire, ben là, parce que si on laisse Atkins et Shapiro faire le travail, ben, on a la feuille de route qu'on a, là.
Oui. Moi, personnellement, je trouve que ce qu'on a réalisé est pas si mal. Et je sais que il y en a beaucoup qui critiquent. Je sais que tu fais partie de ceux-là, Marc. Puis ça se peut qu'on s'entende pas et c'est correct. On a fait les séries 3 fois. C'est vrai qu'on n'a pas eu de victoire dans ces 3 séries-là. C'est un échantillon qui est quand même mince. Moi, je vais y aller là-dessus. On s'est bâti de bonnes équipes. Il y a des transactions qu'on a réalisées. Celle de Varsho fait mal.
Ça, c'est clair. Ça fait 9 ans, là, avec les moyens du bord, là, ça fait 9 ans, là, aucune victoire en série. Aucune.
Oui, dans un échantillon qui. Les séries, Marc, puis je revenais à Moneyball, la fameuse citation de Billy Bean. Mais, tu sais, l'échantillon est trop mince, je trouve, en série. Tu te rends là, n'importe quoi peut arriver, puis ça peut être un balayage par l'autre équipe, même de la meilleure. Pour ça, moi, une fois que tu es rendu, c'est le but principal. Ce qui arrive, c'est dommage, mais on s'est donné les moyens de le faire. Moi, c'est ça qui est le but principal. Puis de ce côté-là, puis c'est vrai, bon, 0-6. Regarde, c'est frustrant, mais au moins, on s'est donné les moyens de le faire. Moi, c'est le crédit que je donne.
Tu as raison de dire que c'est pas un mauvais travail. Absolument, je suis d'accord avec toi. Là. Mm-hmm. Mais hein, ça fait 9 ans. Là. Ça fait 9 ans. Fait que, moi, je trouve que là, tu sais, on a fait le tour du jardin à ce niveau-là. Puis moi, j'aimerais ça qu'on arrive avec peut-être des nouvelles idées un petit peu plus créatives, un peu différentes. Ça fait toujours du bien d'arriver avec ça. Effectivement, on n'est pas si dans le trouble que ça. Même si le réseau de filiales est pas super, tu as raison de dire que ça peut changer rapidement. Il y a quand même des jeunes joueurs dans cette équipe-là aussi. Là, personne n'a partant vieillissant, mais il y a quand même des joueurs. Tout à fait d'accord avec toi. Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que on a fendu l'air beaucoup avec les joueurs autonomes. Puis, tu sais, qui est à blâmer? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est on veut pas aller à Toronto? Est-ce que c'est si? Bon, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui peut peut-être, excusez l'expression, mais qui va venir closer des deals, tu sais, qui va venir faire le travail, qui va aller signer peut-être un joueur autonome ou qui va aller, tu comprends? Je pense qu'on est peut-être mûr pour quelque chose qui va changer. Ceci étant dit, si les Jays commencent 20 et 10, comme j'ai mentionné, puis que Vlad va bien, puis que les partants font le travail, peut-être que là, on peut s'en aller vers quelque chose d'intéressant, tu sais. Mais enfin, la discussion est sur si ça va vraiment pas bien en début de saison, qui va être en charge de prendre des décisions qui vont s'imposer pour ramener le bateau à flot, tu sais.
C'est sûr que les perceptions sont importantes, Marc. Puis, tu as raison là-dessus. Les perceptions vont au-delà de la qualité de ce qu'on offre au deuxième étage. Et si à un moment donné, s'il y a trop de plaintes de la part des partisans, ça se peut que ça monte jusqu'en haut. Effectivement, et compte tenu en plus que les deux hauts dirigeants sont à leur dernière année de contrat, Marc, c'est une année importante. Si on avait pleine confiance, ils ne seraient pas à leur dernière année de contrat. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils sont sur la sellette plus que n'importe qui d'autre, je pense, dans l'organisation des
Blue Jays. Je trouve ça intéressant. Ben, évidemment, dans le cas de Shapiro, ça se termine effectivement après la saison. Dans le cas d'Atkins, quelque part en 2016, mais pas exactement au même moment, mais ça reste que ça se termine bientôt dans leur cas. Ouais. Donc, tu sais, à quelque part, c'est sûr que ça devient un petit peu plus fragile à ce niveau-là. Mais je pense quand même que les Jays ont une équipe intéressante. Je pense pas que c'est une équipe qui va aller au-delà de 85-86 de victoires, mais ça peut être suffisant pour entrer en série. Puis tu l'as dit, une fois entré en série, tu sais, on ne sait jamais. Donc, mais c'est sûr que tu as vu, tout le monde a observé l'attitude de Vlad au camp d'entraînement. Et Vlad, heureusement, est arrivé avec le gros sourire. Puis ça a été tout le monde. Tu sais, c'est un gros nounours, Vlad. Là, tout le monde est après lui. Il est de bonne humeur. T'as l'impression que tout le monde est de bonne humeur. Il est avec le sourire. Ça, c'était la très bonne nouvelle. T'sais, tu vois que c'est un gars qui est pas égoïste. Tu sais, je comprends qu'il veut, il s'est donné une valeur, puis c'est bien correct. Mais une fois qu'il a mis l'uniforme sur le dos, même lors du premier match, je l'ai vu, des jeunes lanceurs qui venaient, une petite table d'encouragement. Tu es un jeune joueur qui arrive dans l'organisation des Blue Jays, tu vas lancer dans un match préparatoire, puis tu as Vlad Guerrero qui vient t'encourager. C'est toutes des petites choses de même qui font que Vlad est peut-être un petit peu plus que ce que, comme je mentionnais tout à l'heure, que le simple joueur de premier but qui est un excellent joueur.
Oui, il y en a plusieurs qui ont intérêt à avoir de grosses saisons. Lui, c'en est un. Bichette en est un autre qui doit rehausser sa valeur. Tous des points qui font en sorte que 2025, ça se pourrait que ça marche pour les Blue Jays de Toronto.
Écoute, Bichette est peut-être la clé, Alain. T'sais, dans le sens que Santander, on sait qu'il va produire. Bon, dans le sens qu'il va venir protéger. Mais si Beau Bichette redevient à peu près le Beau Bichette, donc, qui est capable de peut-être mener la Ligue au chapitre des coups sûrs. Et, ça devient intéressant. T'sais, moi, j'ai pas abandonné sur un Dalton Varsho. Je ne dis pas qu'il va frapper 300, mais c'est un Varsho qui peut s'améliorer en attaque, même si j'espère qu'il va être prêt pour le début de la saison. Mais je m'attends pas à ce qu'un Springer soit vraiment meilleur. Là, l'âge, peut-être, il est rendu à un certain point, mais moi, je l'enlèverais du premier rôle, du premier frappeur du rôle offensif. Mais ça, c'est un sujet qu'on a déjà débattu. Mais fait qu'il y a un potentiel intéressant. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Marc, c'est le temps de la carte de la semaine. C'est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Et on a porté notre dévolu sur un ancien instructeur de la première heure des Expos. Il s'agit de Larry Tobey, qui a été aussi le deuxième gérant de l'histoire du baseball majeur et le deuxième joueur à avoir fait ses débuts dans le baseball majeur, et le premier de la Ligue américaine. Larry Tobey, c'est en 1951. Ça n'a pas été long qu'il a fait sa marque, un peu comme tous les joueurs noirs de cette époque-là. De toute façon, ils ont tous été, ou à peu près ceux qui commençaient, il n'y avait pas de substitut noir à cette époque-là. Si tu voulais faire ta place, c'était comme joueur étoile. Il y en a eu plusieurs. Larry Tobey, je disais, 1951, Tops, Major League All-Stars, c'est non numéroté. C'est un ensemble de seulement 11 cartes des vedettes de l'époque. Et on a répertorié sur Trading Card Database 1345 cartes différentes à l'effigie de Larry Doby. C'est un membre du Temple de la Renommée 1998. Et comme je le mentionnais, instructeur des expos, il a aussi contribué au fait que les expos aient signé plusieurs joueurs de la région de New Jersey en 1969. Je dis pas qu'ils ont tous fait des majeurs, mais comme on avait des équipes et on avait seulement un repêchage derrière la cravate, ça prenait des joueurs d'un peu partout pour remplir ces équipes-là. Marc, on les embauchait pour commencer la saison. Avec le repêchage de 1969, Marc, on a repêché quelque chose comme 75 joueurs en 69. Donc, il y en a plusieurs qui, rendus au mois de juin, qui ont été libérés après 3 mois avec West Palm Beach. Vous n'avez pas le choix, Marc, c'est la façon que ça se faisait. David Aubé, Marc, c'était un joueur marquant des Indiens de Cleveland. Il était dans la Série mondiale en 1948. Il y a une célèbre photo, Marc, on l'a déjà, si vous vous souvenez, dans un compte complet, une célèbre photo de Larry Doby avec Gromek, je ne me souviens plus de son prénom, là, mais c'est une des premières photos, Marc, d'un joueur noir avec un joueur blanc vraiment collés un sur l'autre. Et Gromek, d'ailleurs, il y a des amis qui lui ont pu parler après ça. C'est pour dire comment les temps ont changé. Ils ont besoin de changer encore, visiblement. Il y a du travail à faire. Mais Larry Doby, c'était vraiment une photo clé de l'histoire du baseball. Et comme je le mentionnais, gérant avec les White Sox de Chicago par la suite à la fin des années 70. Et c'était un joueur marquant de cette époque-là, une époque là, où on commençait à accepter que les joueurs noirs pouvaient jouer avec les blancs. Puis on a vu qu'il y avait une grosse qualité de joueurs noirs. On s'en est rendu compte tellement que l'année passée, bon, on a accepté finalement des statistiques qu'il y avait dans les ligues de noirs. Et la lumière de toutes les recherches qui ont été faites, il était temps que ça se fasse. Donc, c'est la carte de la semaine dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, Larry Doby.
Alain, c'est aussi maintenant le moment de souligner notre partenaire principal, le plan de match qu'on remercie. Le plan de match, c'est quoi? C'est une boutique de baseball spécialisée, évidemment. Alors, sur place ou en ligne, cours privé, évidemment, lorsque vous êtes sur place, il y a des cages de frappeurs. Donc, tout pour le joueur de baseball, la saison qui... ça, il, à un moment donné, la neige va fondre, là, fait que le baseball va recommencer. Allez vous équiper à plan de match. Et je vous rappelle aussi la meilleure façon de nous regarder ou nous écouter ou tout savoir sur Compte Complet, bien aller sur notre site internet comptecomplet.com.
Il y a beaucoup de partisans des Red Sox de Boston au Québec, on le sait. Le dossier d'Alex Bregman, pas son dossier comme tel, mais où va-t-il jouer? Ça fait parler énormément. Moi, je ne peux pas croire qu'on va placer Raphaël Devers comme frappeur de choix. Si c'est ça qu'on fait, Marc, il y a quelqu'un qui a manqué de vision à quelque part. Tu ne payes pas le contrat que tu as payé à Raphaël Devers pour être un frappeur de choix. Frappeur de choix, Marc, tu peux trouver ça, je dirais pas dans la cour à rebut, la cour à scrap, comme on dit au Québec. Tu peux trouver des bons frappeurs disponibles pour pas mal moins cher. L'argent qu'on a donné à Raphaël Devers, c'est pour avoir un bon rendement à la position de troisième but. Ouais, si moi, c'est mon point. Je peux pas croire que Devers déjà va s'en aller ailleurs qu'au troisième but.
Ben, moi, je pense pas non plus. Puis je trouve ça fantastique ce qui se passe. Tu sais, écoute, on n'avait pas joué un match de camp d'entraînement qui a déjà, oh, qu'est-ce qui se passe au camp? Puis Devers qui dit, hey, un instant, moi, je laisse pas mon poste. Moi, je trouve ça parfait, là. C'est ça que tu veux dans une équipe, là. Tu veux, là. Moi, je veux jouer à cette position-là. Bon, parfait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Devers va jouer au troisième la plupart du temps. J'en suis pas mal convaincu. Mais ça peut permettre aussi à Devers d'aller de temps en temps comme frappeur de choix. Les saisons sont longues. J'ai pas de problème. Bregman est un excellent joueur d'avant-champ. Il va jouer au deuxième. La question, en fait, qu'on devrait se poser, Alain, c'est quelle est la meilleure formation que je peux mettre sur le terrain pour gagner du côté des Red Sox? Ben, ça va être Story à la réco, même si défensivement, ça peut être, bon, c'est peut-être pas nécessairement le gant d'or, mais donc, c'est Bregman au deuxième, Devers au troisième, avec Story à la réco, et Casas au premier. C'est ta meilleure formation, autant en défense qu'en attaque. Parce que, comme tu dis, si on enlève Devers comme frappeur de choix, oui, Bregman est très bon au troisième, mais là, on va mettre qui au deuxième qui va vraiment être solide? Mm-hmm. Moi, j'aime ça. J'aime ça avoir des caractères forts dans une équipe. Puis ça prend ça dans une saison. Tu sais, on parle beaucoup de Juan Soto, puis il a un caractère fort. Ça, ben, tu sais, Bregman a un caractère fort. Puis tu sais, ce qu'il a fait dès son premier match, justement, contre les Blue Jays, tu sais, il s'est imposé en attaque, un circuit, un simple, un double. Moi, j'aime ce que je vois du côté des Red Sox. Mais effectivement, si jamais on est surpris puis qu'on voit que Devers commence l'année comme frappeur de choix, ben là je trouve qu'effectivement on s'en va ailleurs. Parce que Devers, regarde Alain, t'es un gars de statistique avancé là. Défensivement, c'est pas le meilleur, mais il est pas mauvais du tout là au troisième. Là.
Il s'est amélioré beaucoup. On va lui donner le crédit. Mais effectivement, c'est loin d'être le meilleur. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom d'Arenado avait été soulevé. On y reviendra à Arenado un peu plus tard. Les Red Sox seraient à la recherche d'un lanceur de pointe. Donc, Dylan Cease revient souvent dans des rumeurs de transactions avec les Padres de San Diego. Cazes pourrait être disponible, Marc. Je pense pas que Devers le soit dans cette expectative. Parce qu'il y a un Vaughn Grissom, Marc, qui attend son tour depuis un petit bout. C'est pas de sa faute qu'il a été blessé, mais c'est quand même un gars qu'on a acquis pour éventuellement le faire jouer régulièrement. Puis tu as un gars comme Rafaela qui peut arriver à l'avant-champ. Il y a un peu de profondeur. Le non-dweller à Briou a été soulevé. Tu pourras avoir gros pour un gars comme celui-là, qui est bon en défense, Gandor, qui est capable de frapper. Est-ce que tu penses que c'est fini avec les Red Sox de Boston ou tu penses qu'on cherche encore vraiment avoir ce gros lanceur?
Ben là, tu sais, moi, Garrett Crochet vient combler un petit peu que tu parles de gros lanceur en espérant que ça fonctionne bien pour lui. Mais j'aime le fait que tu soulèves, il y a de la profondeur. Là. Enfin, on a l'impression qu'on a des joueurs de qualité à chacune des positions. Et oui, ça ouvre la porte à quelque chose de possible. Mais tu sais, on connaît le prix des lanceurs partants. C'est sûr que si tu... Je comprendrais pas les Padres d'échanger Dylan Cease, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais. Mais écoute, Alain, la journée que tu peux toujours ajouter un lanceur partant de qualité, d'après moi, 9 organisations sur 10 vont dire, écoute, on le fait, là. Je veux dire, à moins que le prix soit complètement démesuré. Donc, je suis pas certain de la valeur de Cazes. Très bon joueur, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup encore trop de points d'interrogation pour lui donner vraiment cette valeur, là, de dire, ce gars-là, est un premier but pour les 10 prochaines années qui va frapper avec puissance. C'est pour ça que je sais pas à quel point tu vas aller chercher un lanceur de qualité pour un joueur comme ça. Et ceci étant dit, c'est toujours bon d'avoir cette profondeur-là. Un, tu sais pas si aucun entraînement, tu sais, regarde, je veux pas être prophète de malheur, mais tu sais, un gars comme Story est souvent blessé puis tout ça. Donc, tu sais, commence avec la profondeur, va voir ce que tu as comme organisation. On a parlé du réseau de filiales qui est pas mal plus intéressant. Ouais. D'ailleurs, on en a donné pas mal pour aller chercher Garrett Crochet, puis on est encore bien garni là, du côté des Red Sox. Donc, on a vraiment fait un travail. Ce qui est plate, là, c'est qui a fait tout ce travail-là?
Ben oui.
James Bloom, il est plus là. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que ça reste que les Red Sox sont quand même dans une bien meilleure position là, qu'ils ne l'étaient il y a un an à tous égards. Mais je pense vraiment que Bregman va faire une belle différence au niveau caractère, certes, mais en termes de production offensive aussi.
Oui, on n'a pas parlé, Marc, Campbell va faire, et puis Anthony, ils vont faire leur début cette année, eux autres, puis ce ne sera pas pour jouer sur le banc. Tu parlais de profondeur, on n'a pas parlé de ces gars-là, puis c'est deux des gars qu'on voit comme même potentiels candidats comme recrues de l'année, là. C'est pas des prospects de deuxième ordre. Non, il y a du matériel. Les Red Sox, pourquoi on voulait absolument Bregman, Marc, c'est quand on fait le tour de tous les frappeurs qu'il y a autour des Red Sox, on est vulnérable face aux lanceurs gauchers. On a beaucoup trop de frappeurs gauchers. Moi, ça m'a surpris un peu qu'on laisse aller Tyler O'Neill qui venait combler cet écart-là. Mais c'est pour ça, c'était... Je dis pas d'urgence, mais c'est important d'avoir un gars comme Bregman là, pour mettre un peu d'équilibre dans cette formation-là.
Oui, puis absolument. Puis tu fais bien de mentionner. Effectivement, moi j'aime beaucoup les Red Sox à ce niveau-là, là, au niveau de leur profondeur, de ce qui s'en vient. Puis ils peuvent surprendre. Ils peuvent surprendre dans cette division Est-là. Tu sais, les Orioles. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, surtout au Monticule du côté de Baltimore. Okay, écoute, ça va se resserrer encore davantage dans cette division-là.
Oui, compte tenu de Campbell, dans les gros prospects qui sont presque prêts, là, leurs trois principaux, en fait, sont au niveau 3A, donc ils sont à un pas des majeurs. Il y en a juste un droitier, et c'est Campbell. C'est peut-être lui qui est le plus proche. Christian Campbell, qui est le plus polyvalent aussi du groupe, c'est un autre Duran Raphaël. Dans ce contexte-là, on pourrait effectivement peut-être regarder Abreu, est-ce qu'il va rester avec les Red Sox? Tu penses qu'on pourrait avoir plus pour Abreu que pour Cazis?
Moi, je pense que oui, Alain. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu d'Abreu. Et puis, je suis pas mal convaincu que tu pourrais avoir un petit peu plus. Puis, puis j'ajouterais, là, tu sais, Kyle Teal, qui était un des receveurs, qui était envoyé aux White Sox, évidemment, dans la transaction de Garrett Crochet. Ça, c'est lui qui me fait un petit peu plus mal du côté des Red Sox. Moi, je pense que lui va vraiment devenir un joueur, un receveur dominant dans le baseball. Mais bon, à un moment donné, il faut que tu payes pour avoir un gars comme Garrett Crochet. Là.
On va parler des Yankees, Marc. Première des choses, prolongation de contrat pour Aaron Boone a fait l'objet de beaucoup de critiques au fil des années. On fait partie de ceux-là, Marc. Si on lui a donné une prolongation de contrat, Marc, c'est que c'est un gars de compagnie. On est content de la façon dont les choses se font. Et on le voit dans ses commentaires d'après-match. C'est un gars de compagnie, à l'aise avec les médias de New York, ce qui n'est pas négligeable. Là. C'est un gars qui était passé par les médias avant. Joe Torre était très bon là-dessus aussi. Joe Girardi savait comment composer avec ça. Ça met en lumière un peu les façons de faire quand Aaron Boone s'adresse aux médias à expliquer ses décisions. C'est toujours nous. Un peu comme Dave Roberts, c'est toujours ce qu'il a dit. C'est nous. On le sait comment ça se passe. Les décisions sont prises de telle façon. Son défi, Marc, ce sera peut-être sur le terrain maintenant de s'organiser pour que son équipe joue mieux à partir de tout ce qu'on a entendu dans l'entre-saison.
Ouais, écoute, il a quand même amené son équipe en série mondiale l'année passée, mais tout ça pour dire que tu as raison de dire que c'est un gars de compagnie. Je me répète peut-être souvent, mais j'aime une stabilité. Là, tu vas me dire que tu veux que Shapiro et Atkins quittent, là, mais c'est parce que il faut avoir des résultats aussi, tu sais, dans le sens que Cashman est là depuis longtemps. Donc, Cashman, là, Boone est là depuis longtemps, puis il va être encore là pour une couple d'années. Puis, si t'es gérant, tu mettrais n'importe qui à la barre des Yankees, c'est sûr que tu vas être critiqué. Bon, c'est comme ça. Et là, ben, on lui a mis une équipe peut-être plus à son goût, je sais pas. Avec les changements, Bellinger qui va venir, stabiliser pas mal de choses, surtout en défense. Mais tu sais, moi je trouve ça correct. Tu as parlé de la nouvelle façon de faire. Moi, je pense que je dis pas que ça revient pas uniquement à une personne, mais je pense qu'au fil des dernières années, Alain, dans la façon dont on fonctionne, le gérant a quand même un petit peu plus son mot à dire qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Tu sais, dans le sens que je sais que c'est nous. Je sais que c'est un ensemble de facteurs, mais une fois que le match commence, j'ai comme cette impression que le gérant est capable d'en prendre un petit peu plus. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Tu fais essai-erreur. Dans le baseball, on l'a vu beaucoup, là. Je vous dis pas que c'est le même dans toutes les organisations, mais je pense qu'on en laisse un petit peu quand même à Aaron Boone à ce niveau-là. Et comme tu l'as dit, il est assez habile avec les journalistes pour être en mesure de communiquer communiquer son message. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir, j'aime Max Fried, j'adore d'ailleurs la signature de Max Fried. Oui. Je pense que c'est un des lanceurs les plus mésestimés du baseball. Très, très bon athlète. Fait que, mais, évidemment, il y a déjà un Stanton qui a mal aux deux coudes. Fait que, est-ce que ça va ouvrir la porte à quelqu'un d'autre? Ça va être intéressant à suivre ça aussi, mais c'est toujours une période le fun, hein, le début de saison, le camp d'entraînement, parce que les attentes sont élevées, mais tout le monde pense qu'ils ont une chance de gagner. Puis ça, je trouve que c'est la période le fun. Puis là, c'est le temps de bâtir cette confiance-là, parce que, Alain, c'est fini la période de camp d'entraînement que tu disais « Ah, c'est pas grave, on a perdu tout le camp d'entraînement, mais on faisait des essais. » C'est pas vrai, ça. Tu veux gagner au camp d'entraînement, tu veux te donner un petit momentum. Et tu veux. Et une organisation, là, 70% des billets de pas de saison, mais des billets pour des matchs de saison se vendre à partir que, tu sais, du mois de mars, c'est-à-dire que là, les gens sont excités. Mais si ton équipe est 0-15 là, pour commencer le camp d'entraînement, puis tu vas dire non, ça va aller. Non, tu sais, tout le monde veut gagner, tout le monde veut bien paraître, tout le monde veut faire les choses correctement, puis les Yankees ne font pas exception là-dessus, même si les Yankees ont fait parler d'eux pour deux autres sujets qui sont hors terrain.
On va commencer par l'aspect physique des joueurs. Il y en a qui, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais qui vont probablement avoir un look un peu différent cette année. On se souvient de la transformation radicale qu'avait subie Rougned Odor à son arrivée avec les Yankees de New York. Je te garantis qu'il aurait marché dans les rues de New York, il n'y a personne qui l'aurait reconnu après son passage avec les Rangers du Texas. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Dans les années 70, il y en a quelques-uns qui avaient défié ces règles-là. Je pense à Thurman Munson. Puis Thurman Munson, c'était pas un rebelle. Puis lui, ce qu'il disait, il dit « Je porte une moustache parce que je suis à l'aise avec une moustache. » C'était le capitaine de l'équipe. Et Billy Martin était là, il aimait ses joueurs, surtout dans le temps de Munson, en fait son type de joueur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin de taper dans le dos, pas besoin de couper dans le derrière. C'est un professionnel. Sparky Lyle en était un autre. Mais c'était une autre période. Les années 70, Marc, tu te rappelles, les cheveux étaient un peu plus longs quand on regarde les images et la moustache, c'est ça, était très présente. Bref, un changement qui était dû. C'est ce que les Yankees ont dit avec les changements sociétals auxquels on assiste. Ben, peut-être qu'effectivement, c'était le bon moment pour les Yankees de New York de procéder à des changements. Regarde, Andrew McCutchen, tu te rappelles, quand avec ses débuts avec les Pirates de Pittsburgh, on jouait avec les Yankees, il y avait, sa transformation s'était faite avant. Mais on n'aurait pas pu l'acquérir en 2014, Andrew McCutchen. Bref, les Yankees ont jugé que c'était le bon moment pour le faire. De mémoire, Marc, la dernière équipe avant eux autres, c'était les Reds de Cincinnati, ouais. Je crois. Ouais. Et c'est en 99 qu'on avait décidé de laisser tomber. Si vous n'êtes pas convaincu que ça a changé, je vous suggère de voir Eddie De La Cruz et Jonathan India ces dernières années. Bon, fait que Marc, je pense que tu es d'accord qu'on était peut-être dû chez les Yankees.
Bon, oui, écoute, regarde, c'est pas... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, je vais utiliser l'expression qu'ils ont utilisée, là, mais c'est « clean shave », ça veut dire quoi, là? Bon, non, mais je veux dire, il va quand même avoir une espèce de regard sur, tu sais, sur ce qui se passe à ce niveau-là, mais je trouve ça sympathique, c'est correct. Je sais que Devin Williams était un de ceux, bon, on sait que Williams est avec les Yankees, était un de ceux qui avait manifesté le fait qu'il trouvait ça vraiment, vraiment plate, cette règle-là, puis... tu sais, Cashman, mais Steinbrenner a fait son travail là-dessus. C'est-à-dire que, écoute, il a appelé des joueurs d'une certaine époque, il a appelé beaucoup de monde pour dire, regarde, on veut prendre cette décision-là parce que c'est quand même la décision de son père là que tu décides de transformer. Ouais. Là. Fait que c'est pas rien, là, c'est ce que je veux dire. Là. C'est pas rien comme. C'est pas une décision qui a été prise à la légère. C'est sympathique pour tout le monde, là, de si on en parle puis tout ça, mais. Ça n'a pas été pris à la légère, puis je trouve ça correct. Je trouve qu'on a fait nos devoirs, puis qu'on a pris la décision qui s'imposait à ce niveau-là. Puis c'est ça. Je suis pas sûr qu'on va voir Aaron Judge avec une barbe, mais on risque de voir quand même des joueurs qui changent de look.
J'étais à Chisholm avec des cheveux peut-être un petit peu plus longs aussi. C'est le genre de truc là, qu'on pourrait peut-être voir là, au cours de la saison. Marc, il y a plusieurs joueurs sur lesquels les réflecteurs sont... tourner, je pense à Seranthony Domínguez, ça pourrait être un joueur clé là, au sein de l'équipe au cours de la saison qui vient. Là.
Ben là, écoute, oui, absolument. Là, la porte est grande ouverte. Et, d'ailleurs, même Abra Boone en a parlé. Là, c'est un peu à lui de prendre le poste. Là, fait que il y a des choses toujours intéressantes du côté des Yankees à ce niveau-là. Et l'autre règle qui change, ben parce que vous savez qu'après chaque match au Yankee Stadium, on jouait le fameux New York là, de Frank Sinatra. Mais là, il ne jouera plus. Cette chanson ne jouera plus s'il y a une défaite des Yankees.
Oh.
Alors, on a décidé de changer ça. Donc, il y a des traditions là qui tombent du côté des Yankees. Mais écoute, parce que encore là, ce sont les joueurs qui ont dit, écoute, là, la toune, on vient de se faire planter 9-1 là, puis. New York! Fait que c'est Aaron Judge qui avait signalé à l'organisation de dire, ben, tu sais, y a-tu moyen que. Tu sais, on vient de perdre, là. Alors, bon, en tout cas, c'est correct, les temps changent, puis on s'adapte à 2025.
Oui, écoute, il y a une couple, de pièces que je pourrais leur proposer, Tears in Heaven, Tears in the Rain, des trucs comme ça, mais. Je suis pas sûr que ça. Aaron Judge serait bien d'accord. Enfin, J'ai hâte de voir ce que les Yankees vont avoir l'air au cours de la prochaine saison. C'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On revient aux Red Sox. Il y en a plusieurs partisans des Red Sox qui nous regardent. Est-ce qu'ils seraient meilleurs avec Bregman au deuxième ou au troisième but? On vous invite à envoyer vos commentaires sur cette question sur notre site Internet, compte complet balado.com, sur notre page Facebook également, facebook.com/compte complet balado. Nous avons un nouveau segment dans le cadre de notre balado au cercle d'attente. D'ailleurs, on vous encourage, les jeunes, à la lecture avec des histoires qui sont passionnantes sur le baseball. Oui, destinées aux jeunes. Pour en apprendre davantage, je vous invite à aller sur le site Internet de Baseball Bob, c'est-à-dire www.baseballbob.ca. Il y a plein d'aventures sur le baseball pour les jeunes destinées à vous qui sont disponibles. Marc, notre joueur aujourd'hui, on va parler d'Alex Bregman. Bregman qui a un cheminement, disons-le, je pense qu'il est contemporain, qu'on pourrait dire. Lui est issu des universités américaines, deuxième choix au total par les Astros de Houston. Et peut-être, Marc, je ne sais pas si les Astros ont été plus clairvoyants que d'autres. Certains ne le voyaient pas si haut. Pas un joueur de grande taille, un joueur de milieu d'avant-champ. Ben, les Astros en ont fait un joueur de troisième but. Donc, il a défié quand même les conventions actuelles dans le baseball, dans le recrutement.
Oui, absolument. Parce que, je vais vous dire, on indique 6 pieds là, dans son profil. Ça, c'est avec ses souliers à crampons. Puis 190 livres, c'est maintenant, parce qu'il n'a pas été repêché avec avec ce poids-là. D'ailleurs, je ne sais pas si les Red Sox avaient... Tu parlais des Astros qui avaient cette division. Il avait été repêché à des écoles secondaires par les Red Sox de Boston. C'était, écoute, en 29e ronde. Il n'avait pas signé. Il avait décidé d'aller effectivement à l'Université Louisiana State. Et donc, il s'est retrouvé avec les Astros un peu plus tard. Mais effectivement, Alain... Et pour parler souvent avec Alex Agostino, si t'es en bas de 6 pieds puis que t'es 170 livres, 175 livres, on n'est pas porté à te repêcher dans les premières rondes. T'sais, on va te repêcher parce que t'es un très bon athlète, mais peut-être pas dans les 2, 3, 4 premières rondes. Et finalement, ben, Bregman qui a signé, puis il s'est rendu au troisième but. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait une pas pire équipe à Houston, hein, lorsqu'il était là, parce qu'à l'arrêt court, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il jouait à l'arrêt-court lorsqu'il était au collège. Il y avait un certain Carlos Correa, qui n'était pas mauvais. Il y avait un Jose Altuve qui jouait aux deux. Alors, pour faire de la place à Bregman dans la formation, il s'est retrouvé au troisième et est devenu, évidemment, un joueur qui a excellé à cette position-là. Donc, c'est une très, très belle histoire, dans le fond, celle de Bregman. Et on le voit dans sa carrière, un gars qui a confiance en lui. Puis... le niveau de arrogance et confiance, là, lui, il a atteint la limite. Et mais ça prenait ça parce que avec encore une fois le physique qu'il avait, tellement facile à l'un de se faire d'être intimidé, pas de se faire intimider, mais d'être intimidé. Moi, j'en ai vu. Mais mon premier camp d'entraînement, je me rappelle, il y avait des 3, 4, 5 joueurs de troisième but, là, des gars de 6 et 3, 190 peu au couteau. Il lançait à peu près à 100 000 à l'heure, tu sais, à travers le l'avant-champ pour lancer au premier but, là. Mais il y a des joueurs qui ont jamais atteint, tu sais, le A ou le 2A parce que c'est pour la première fois de leur carrière, ils faisaient face à de l'adversité, puis que, tu sais, il y avait des gars aussi bons qu'eux autres autour d'eux, alors qu'eux autres ont toujours été les meilleurs partout. Fait que ça prend du caractère, ça prend vraiment, tu sais, quand t'es pas costaud comme les autres, c'est facile de se comparer. Mais lui, il a exploité ses forces puis il s'est forgé toute une carrière.
Absolument. Donc, chapeau à Alex Bregman pour cette carrière. Et je vous rappelle que ce nouveau segment là, au cercle d'attente sera présenté dorénavant sur Compte Complet. Marc, on va parler de gérant. Et Albert Pujols, qui vient de gagner il y a quelques semaines la Série des Caraïbes en étant à la tête d'une équipe de l'IDOM, la Ligue hivernale dominicaine. Chapeau à sa première année d'expérience comme gérant. Lui, Yadier Molina, était dans la même ligue. Albert Pujols, j'ai pu le voir à l'œuvre. Bon, félicitations à Albert Pujols, première des choses. Moi, ce que ça me dit, c'est que ce gars-là aimerait ça être gérant. Moi, Molina, c'est pas une question d'argent, ça, on s'entend là-dessus. Ça me dit qu'il veut être gérant. La seule question que je me pose, c'est qu'il voit... Moi, je dis chapeau parce qu'il a montré son intérêt à tout le monde. Donc, je pense que c'est ça le message principal. Et là, la question que je me pose, c'est la pertinence de l'expérience qu'il a acquise là-bas. Parce qu'on le sait, le rôle des gérants n'est pas le même. On parlait d'Aaron Boone tantôt, il n'avait pas géré avant d'être gérant des Yankees. Steven Vogt, 2 ans après sa retraite, devient gérant après 1 an au deuxième étage. Bref, l'expérience sur le terrain, ça vaut quoi aujourd'hui, compte tenu de la façon dont on embauche des gérants et de la façon aussi dont ils travaillent?
Ben, écoute, Alain, c'est du cas par cas. Tu sais, demain matin, moi, là, si on me demande, tu sais, Marc, vas-tu gérer, je sais pas, mon niveau 3A, je serais bien heureux, mais je serais peut-être plus à l'aise de dire, sais-tu quoi, envoie-moi donc dans le A, là, une année, puis je vais aller me forger, là, quelque chose, tu sais, je vais aller travailler, là, puis m'aller apprendre un petit peu. Fait que peut-être que pour Ose, lui, il s'est dit, un instant, moi, là, j'aime ça gérer, et je vais aller me faire les dents un petit peu pour voir, si j'aime vraiment ça, deux, tu sais, ça va me donner de l'expérience, parce que, peut-être que autres, lui, se sent pas nécessairement à l'aise de dire donne-moi un poste avec telle équipe dans le baseball majeur. T'sais. Fait que, tu sais, Steven Vogt, effectivement, ça il a montré du cran, mais il est quand même parti. Il était dans l'abri, là, 2 ans, mais 1 an auparavant, il était dans l'abri. Fait qu'il savait un petit peu dans quoi il s'embarquait, mais de toute évidence, il était à l'aise avec ça, tout comme Aaron Boone. Mais tu sais, moi, je trouve ça fantastique. Parce que tu l'as dit clairement, les gars veulent démontrer qu'ils sont capables de gérer, qui aiment ça, tu le dis, c'est pas pour l'argent non plus. Fait que moi, c'est tout à leur honneur d'aller prendre l'expérience, d'aller voir ce que c'est, parce que, tu sais, c'est pas pareil. Moi, j'étais joueur, là, puis je vais dire, OK, je vais aller coacher. Je sais que, tu sais, j'en ai eu plein de gérants, j'ai appris de ces gérants-là, mais de dire que je m'en vais prendre leur chaise, m'asseoir sur leur chaise puis faire le travail, il y a tellement plus qu'ils font qu'il paraît pas, là. Fait que moi, je trouve ça fantastique. Puis c'est bon pour le baseball. Moi, j'ai pas de problème. Je sais souvent que des gens vont dire, ouais, mais les grands joueurs, ce ne sont jamais des grands instructeurs. Et on a vu ça dans bien des sports, là. Puis, alors que pour Oz, ben, on sait que ça a été tout un joueur. Mais, tu sais, il peut y avoir des exceptions. Puis, c'est parce que des gens vont dire, ouais, mais tout lui a été facile. Pas vrai, là. Mais je trouve ça bien, moi. Puis de voir Pujol, si un jour va gérer dans le baseball majeur, moi, je trouvais ça le fun. J'aimerais ça voir comment ce gars-là agirait, tout comme Molina, d'ailleurs. Puis Molina, c'est pas surprenant, il y a tellement d'anciens receveurs qui deviennent des gérants. Alors, bravo. Moi, comme je te dis, c'est tout à l'honneur de Pujol, entre autres choses, là, d'aller prendre de l'expérience.
Oui, dans le cas de Molina, lui... C'était presque déjà un gérant quand il était receveur. C'est lui qui était le meneur là, sur le terrain. Et moi, la question que je me pose, ça dépend dans quelle organisation il va tomber, mais dans les réunions d'avant-match, de voir les gars du deuxième étage de statistiques aller voir Molina puis dire « Bon, ben, regarde, c'est comme ça que tu vas utiliser tes gars ce soir alors qu'ils ne sont jamais accroupis derrière le
banc. »
Je ne sais pas, Marc, mais
non,
dans le cas de Molina, je trouve que ça pourrait être problématique pour lui de trouver un emploi, à moins qu'il accepte vraiment cette façon de faire.
Ah, oh, mais Alain, moi, je vais t'arrêter. Là, faut que t'arrêtes de t'en... C'est pas juste ça, là, qui se passe. Là. C'est-à-dire que le gars du deuxième étage, là, il propose des affaires. Il impose pas des affaires. Il propose des affaires. Puis là, ben, on s'entend. Tu sais, parce que il y a personne qui va accepter cet emploi-là si tu dis c'est ça que tu vas faire puis tu feras pas rien d'autre, là. Le gars, aux lunettes et cravates, là, non, ça... Tu sais, ça, c'est... Tu sais, je pense que c'est dans les films, là, qu'on voit ça, là. Tu sais, il y a un travail d'équipe. Je peux pas croire qu'un Aaron Boone sort du meeting là, ou de Dave Roberts, là, puis il est complètement désemparé. Il dit, ouais, non, ça n'a pas d'allure, puis je trouve aller gérer ça. Tu sais, il y a un terrain d'entente. Oui, il y a des décisions qui se prennent avant, mais il y a un terrain d'entente. Alors, c'est sûr que je pense là, que tu sais, il faut arrêter là, carrément de penser là, que c'est... C'est uniquement les gens, des statistiques avancées qui décident de tout. Là, t'sais.
C'est pas uniquement ça, Marc. Mais ils sont pesants dans la décision. Ils pèsent lourd dans les décisions finales.
Regarde, on ne s'entendra pas là-dessus de toute façon, Alain. C'est sûr qu'on ne s'entendra pas là-dessus. Puis moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens que Molina, Ça serait le genre de gars que je considérerais, tu sais, évidemment. Bon, là, mettons qu'il va gérer avec les Yankees, est-ce qu'il est assez fort en communication pour aller bon gérer telle équipe? Ça c'est une autre affaire. Là, je connais pas les qualités de Molina à ce niveau-là, mais certainement en termes de connaissance baseball, de stratégie, d'utilisation de lanceur, c'est un gars qui pourrait avoir une pas pire feuille de route là.
Oui, on va rester avec, on parlait de Pujols et de Molina, des Cards de Saint-Louis. Arenado, Marc, on veut vraiment s'en départir. Ouais. Il est encore avec les Cards. Tu parlais tantôt de valeur de joueur. Bon, tu parlais de Cazis à Abreu. Moi, on en a déjà parlé, mais je ne peux pas croire, moi, qu'Arenado a une si grosse valeur que ça pour quelqu'un qui est devenu un gars avec un bâton très moyen. Au troisième but, tu veux quelqu'un qui frappe?
Oui, moi, je suis... Écoute, pis les Cards se sont aussi peinturés dans le coin là, parce que là,
ben oui.
T'sais, comment tu vas utiliser ce joueur-là? Même à son arrivée au camp d'entraînement, on s'est dit comment, bon, c'est un professionnel, là, je pense qu'il se comporte bien, ben mais oui. T'sais, tu le sais que ce gars-là, il portera pas cette uniforme-là bien, bien longtemps. C'est pas une situation vraiment idéale pour les Cards. Puis, tu sais, si les Cards l'échangent, ils vont payer pas mal. T'sais, ils vont payer la majorité du contrat, parce que qui va vouloir prendre... Je sais que les Astros, puis là, les Red Sox aussi, j'entends, c'est pas les Red Sox, mais en fait, j'espère que non, là, dans le cas des Red Sox, mais là, les Astros, ça revient. Là.
Ouais,
ça revient,
ouais.
Le nom d'Arenado qui revient. Ben écoute, tu sais, peut-être que la clôture du champ gauche, puis la façon dont il s'élance, ben c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant pour... les Astros se disent, on a quelque chose, mais... Je trouve que ça, c'est une décision plate. Puis tout ça vient de quoi, Alain? La pire clause qui a été instaurée dans l'histoire du baseball, c'est mon contrat, là, c'est non-échange. Ben voyons donc. Fait que là, il y en avait eu des transactions, mais ils les ont refusées parce que si je te donne 10 millions, 15 millions par année, là, je peux-tu avoir le droit de t'échanger? Allez, on reviendra pas là-dessus, là, mais ça reste que le fait qu'il ait refusé une transaction. Ben là, ça a créé tout cet environnement négatif là du côté des Cards, puis je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage.
Il reste encore 3 ans son contrat, Marc, à Nolan Arenado. Les Cards vont probablement devoir en payer une bonne partie sans qu'ils jouent avec eux autres. Petit tour rapide des camps d'entraînement. Marc, Juan Soto, ça n'a pas été long qu'il a laissé sa marque avec les Mets de New York, quelques autres aussi, De La Cruz. Bref, les camps sont en marche présentement. Soto, il y a beaucoup de réflecteurs sur les Mets.
Ah, mais tu sais, le gars, il l'a. On va se le dire, là, le gars, il l'a. Tu sais, je veux dire, premier match au camp d'entraînement, une nouvelle uniforme, il a sac l'autre bord. Tu sais, je veux dire, il y a le tour, il y a le don de faire les choses correctement. Puis tu sais, tantôt, je parlais que tu veux gagner au camp d'entraînement. Tu sais, tu t'imagines-tu, là, le premier match de Soto, 0-4, 4 strikeouts. Le premier match de Garrett Crochet, il se fait cogner avec les Red Sox. Tu dis, ouais, ouf. Même si c'est un match, le premier match de camp d'entraînement, là, mais non, on a tout viré ça positif. De La Cruz. D'ailleurs, on en parlera davantage de De La Cruz éventuellement, mais moi, je m'attends à une très, très grosse saison de ce gars-là. Vraiment, là, tu sais, il veut être une vedette. Les Reds ont une bonne équipe. Les Reds ont un bon gérant, Terry Francona. Moi, je pense que la combinaison est parfaite. Francona va être le, tu regardes ce que Francona, c'est pas juste Francona, mais Francona avec Ramirez chez Cleveland, chez les Guardians. Tu sais, il a réussi à l'amener à un niveau d'être un joueur extraordinaire. Encore une fois, là, tout va au joueur, mais tu comprends, là, il y a une relation qui est importante pour que le joueur exploite tout son talent. Je pense qu'avec De La Cruz, ça va marcher du côté des Reds et Francona. Puis Bayaré, puis il frappe des circuits de chaque côté du marbre. C'est parti, c'est le fun. Puis comme j'ai mentionné tantôt, c'est une partie de l'année où là, tous les espoirs sont permis. Les Royals, il y a plein de bonnes choses qui se passent avec Kansas City. Fait que là, c'est le fun parce qu'on parle pas juste des Dodgers. Puis les Dodgers, évidemment, on pourrait en parler amplement, mais il y a plein de bonnes choses qui se passent du côté des Dodgers aussi, là, mais c'est le fun là, qu'on puisse parler de d'autres équipes et de d'autres joueurs on va se dire, Alain, on est gâtés, là, il y a vraiment la qualité des joueurs de baseball en 2025, les jeunes joueurs qui s'en viennent, les Jackson Merrill de ce monde, il y en a d'autres qui s'en viennent dans d'autres organisations, puis C'est juste nous autres qui vont en profiter. Le spectacle va être encore meilleur.
Oui. Marc, on pourrait continuer comme ça, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est parti. On pourrait parler d'autres nouvelles. Kevin Pillar, Mark Canha, Manuel Marco ont tous signé des contrats. Tous ces contrats des ligues mineures, mais on va passer tout droit pour ces trois joueurs-là. On leur souhaite bonne chance au camp d'entraînement. Pillar, qui ne savait pas si c'était pour prendre sa retraite, puis finalement, il y a quelqu'un qui a décidé de l'embaucher en vue de la prochaine saison. Voilà ce qui complète ce compte complet. J'espère que cela vous a plu. Évidemment, ça commence avec les camps d'entraînement. Plein de nouvelles vont suivre au cours des prochaines semaines. On va suivre ça, évidemment, avec vous. On se donne rendez-vous pour notre prochaine compte complet. C'est Alain et Marc. Salut. À la prochaine.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.